Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi 18 mars 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Les lignes rouges de l'Iran de toutefois respectées, il sera prêt pour un accord final, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous n'avons pas besoin de serment sur la justice pour les profanateurs du droit international, c'est en ces termes que Pékin s'en prend à l'OTAN. Les exécutions en Arabie Saoudite pourraient constituer des crimes de guerre, selon la haute commissaire aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Le président sénégalais soutient une solution négociée entre le Mali et la CEDEAO. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue britannique, Liz Truss, se sont entretenus par téléphone sur des questions liées aux relations bilatérales et aux importantes évolutions internationales. Lors de cet appel téléphonique, la ministre britannique des Affaires étrangères s'est dite satisfaite des nouveaux développements positifs dans les relations Téhéran-Londres et a appelé à l'expansion des relations entre les deux pays. Saluant le remboursement d'une ancienne dette britannique attendue depuis plus de 4 décennies en tant que de droit de la grande nation iranienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé son espoir que le terrain pour le développement des relations bilatérales sera fourni par des mesures de confiance. Les deux parties ont également échangé des vues sur le dernier statut des pourparlers de Vienne et a exprimé l'espoir d'un accord final. Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné « Nous sommes plus proches que jamais du point final de l'accord, mais arriver à un accord bon et durable nécessite le comportement réaliste des États-Unis et l'abandon par ces derniers des exigences incorrectes. Si toutes nos lignes rouges sont respectées, nous sommes prêts pour un accord final », a martelé le chef de la diplomatie iranienne. La mission chinoise auprès de l'Union européenne a indiqué que Pékin n'oubliera jamais ceux qui ont attaqué l'ambassade de Chine en Yougoslavie et qui n'a pas besoin de sermon de la part des usurpateurs du droit international. La mission a exprimé cette position dans une déclaration publiée sur son site web en réponse aux critiques de l'OTAN à l'égard de la Chine concernant sa position sur la crise ukrainienne. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le ministère russe de la Défense a révélé un document daté du 6 mars 2015 qui confirme la participation du Pentagone au financement des projets biologiques en Ukraine. Selon l'agence de presse Sputnik, le commandant des troupes de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées russes a fait savoir le financement américain total des activités de biologiques militaires effectuées dans les laboratoire du ministère de la Défense de l'Ukraine atteint 32 millions de dollars. Il a souligné que l'accord sur les activités biologiques conjointes a été conclu entre l'administration militaire américaine et le ministère ukrainien de la Santé. Cependant, le véritable bénéficiaire des fonds était le laboratoire du ministère ukrainien de la Défense. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné les exécutions en Arabie Saoudite de 81 personnes accusées d'être liées au terrorisme et estimant que les peines prononcées à certains d'entre eux pourraient être considérées comme des crimes de guerre. Dans un communiqué, Mme Bachelet a déclaré que parmi les personnes décapitées figuraient 41 personnes appartenant à la minorité chiite qui avaient participé à des manifestations anti-gouvernementales en 2011-2012 pourraient exiger une plus grande participation politique en plus de cet autre yéménite et d'un ressortissant syrien. Notre observation indique que certaines des personnes exécutées ont été condamnées à mort à l'issue de procès qui n'ont pas satisfait aux exigences d'un procès équitable et aux garanties d'une procédure régulière. Elles ont été accusées de crimes qui ne se semblaient pas répondre aux crimes les plus graves comme requis par le droit international, a-t-elle souligné. Madame Bachelet a également exprimé sa préoccupation que certaines des exécutions semblent être liées au conflit armé en cours au Yémen. Le président sénégalais soutient une solution négociée entre le Mali et la CEDEAO. Le président sénégalais Macky Sall a, dans un tweet, déclaré qu'il souhaitait la reprise du dialogue entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le Mali afin d'aboutir à une solution négociée de la crise opposant les deux parties. Dans son tweet, le président Sall a affirmé avoir eu à ce sujet un entretien avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, à la veille de la visite à Bamako du médiateur de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO ont adopté le 9 janvier dernier de lourdes sanctions économiques contre le Mali après que la junte au pouvoir s'est accordé un délai de 5 ans avant d'organiser des élections. Selon la presse locale, l'économie sénégalaise a perdu plus de 24 milliards de francs CFA depuis l'instauration des sanctions de la CEDEAO. En tant que voisin du Sénégal, le Mali y fait transiter beaucoup de ses importations et exportations et est le plus grand client du port autonome de Dakar. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, est arrivée, c'était jeudi, à Ouagadougou, pour échanger avec les autorités de la transition, selon en fait des sources diplomatiques. La présence à Ouagadougou de cette délégation s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail avec les autorités burkinabées de transition, a souligné le ministre burkinabé des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Burkina Faso a entamé une période de transition de 3 ans consécutive à la chute de Roch Marc et Christian Kaboré par un putsch le 24 janvier. Un gouvernement de 25 ministres a été mis en place et conduit par un premier ministre civil, Albert Oued Raogo, alors que l'Assemblée législative de la transition de 71 membres est en cours de composition. La Tunisie se dit prête pour organiser le prochain sommet de la francophonie. La Tunisie est prête pour abriter ou organiser le prochain sommet de la francophonie prévu à l'île de Djerba dans le sud-est du pays vers la fin de cette année. Déterminée à faire de ce rendez-vous une véritable réussite, a déclaré le ministère tunisien des Affaires étrangères, citant son ministre Ousmane Djarandi. Monsieur Djarandi a présidé les travaux de la 46e extraordinaire du colloque ministériel francophone qui s'est tenu à Paris. Le chef de la diplomatie tunisienne a par ailleurs réitéré la disponibilité de son pays à participer activement aux différentes initiatives et programmes approuvés à cet égard et à œuvrer pour enrichir et contribuer leur réussite, peut-on dire dans un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La Chine s'en prend vivement à l'OTAN, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. La mission chinoise auprès de l'Union européenne a indiqué que Pékin n'oubliera jamais ceux qui ont attaqué l'ambassade de Chine en Yougoslavie et qu'elle n'a pas besoin de serment de la part des usurpateurs du droit international. La mission a exprimé ses positions dans une déclaration publiée sur son site web en réponse aux critiques de l'OTAN à l'égard de la Chine concernant sa position sur la crise ukrainienne. Le peuple chinois est en mesure de partager pleinement la douleur et la souffrance des autres pays, car nous n'oublierons jamais le bombardement de notre ambassade en Yougoslavie. Nous n'avons pas besoin de serment sur la justice pour les profanateurs du droit international. Le communiqué a déploré, en tant que de relique de la guerre froide et la plus grande alliance militaire au monde, l'OTAN continue d'étendre sa géographie et la portée de ses opérations. L'OTAN doit réfléchir sérieusement au rôle qu'elle a joué pour apporter la paix et la stabilité dans le monde. Et c'était mardi, le secrétaire général de l'OTAN aura appelé la Chine à condamner la guerre, à ne pas de soutenir la Russie. Le ministère chinois des Affaires étrangères avait fermement rejeté de la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, selon laquelle la réticence de Pékin à condamner la Russie contredit sa position sur la charte des Nations Unies. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que son pays avait toujours cru en la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il y a deux jours, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné que la Chine n'est pas partie à la crise et souhaite toujours ne pas être affectée par les sanctions. La Chine est toujours opposée à l'utilisation de sanctions pour résoudre les problèmes, sans parler des sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement dans le droit international, qui nuiront à la vie des gens dans tous les pays, a souligné le ministre chinois des Affaires étrangères. Pour rappel, le 7 mai 1999, à la suite des bombardements de l'OTAN, l'ambassade de Chine à Belgrade a été endommagée, causant la mort de 3 personnes et faisant plus de 20 blessés.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les progrès acquis depuis quelques années en Afrique semblent anéantis, d'une part à cause du Covid, mais de l'autre part, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis qu'on exerce des sanctions à l'encontre de la Russie, les prix des denrées alimentaires, également des prix des carburants ont augmenté. Donc, ce qui n'arrange pas les choses, l'Afrique, déjà un continent très vulnérable, donc sera affaibli davantage. Avant même qu'on parle de l'Ukraine, de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Afrique avait connu une inflation importante et une baisse de son PIB considérable. Nous allons essayer de trouver des solutions à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Transmis le 10 mars, Kristalina Georgieva est revenue sur les conséquences de l'invasion russe en Ukraine sur les économies africaines. L'Afrique est particulièrement vulnérable aux impacts de la guerre en Ukraine par le biais de quatre canaux principaux. Augmentation des prix des denrées alimentaires, hausse des prix de carburant, baisse des revenus du tourisme et potentiellement plus de difficultés à accéder aux marchés de capitaux internationaux, indiquait la directrice générale de FMI à l'issue d'une rencontre organisée le 9 mars avec les ministres africains des Finances, les gouverneurs des banques centrales africaines et les représentants de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La guerre en Ukraine dévaste la vie de millions de personnes et affecte gravement l'économie ukrainienne. La guerre et les sanctions sans précédent imposées à la Russie ont des conséquences d'une portée considérable. Elles surviennent à un moment délicat pour l'Afrique, a-t-elle ajouté. Mais l'Europe, elle-même touchée par cette guerre, se trouvant en pleine crise, est-elle réellement en mesure d'aider une Afrique qui a montré durant toutes ces années qu'elle est capable de s'appuyer sur ses capacités et faire face à tout genre de complots et de tentatives de déstabilisation?
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité, qui je crois, M. Michel.
Voilà, exactement. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles cette fois. M. Michel, bonjour.
Je n'entends pas.
Voilà, M. Luc Michel, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bon, nous allons essayer de joindre M. Luc Michel depuis Bruxelles tout à l'heure. Ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier depuis Toulouse. Oui. M. Dortiguier, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr, ont des conséquences très négatives sur l'Europe et tout le monde entier. Mais nous allons essayer de parler plus particulièrement à propos de l'Afrique. Les sanctions exercées à l'encontre de la Russie, bien sûr, auront des conséquences économiques néfastes pour la Russie, mais également pour le monde entier. Que pensez-vous?
Oui, en effet, il s'agit là, disons, de... comment pour le dire en un seul mot, d'une crise, comme on dit autrefois, interne à l'ensemble du capitalisme mondial, dans lequel, évidemment, que ce soit la Russie qui suit la Russie, autrefois Union soviétique, et tous les pays, les États-Unis, mais seulement, tous les États et toutes les anciennes colonies, sont impliqués, vous voyez. En ce sens, le monde forme une unité. On parle d'une division de blocs, oui, mais en réalité, ces blocs sont unis par un marché. Vous voyez, c'est le paradoxe de cette guerre qui, finalement, est une sorte de guerre intestine. Ce n'est pas une guerre de conquête à laquelle nous assistons seulement en Ukraine. C'est une guerre, disons, de défense, peut-être, contre une crise économique qui, elle, est inhérente, peut-être, je dis peut-être, mais vraisemblablement, à la manière de vivre. Bon, ceci, on ne peut pas le changer. C'est ce qu'on appelait autrefois le capitalisme. Bon, je dis ça sans aucune nuance, ni de gauche, ni de droite. Mais l'Afrique, elle, est entraînée là-dedans. Alors, disons, le drame de l'Afrique que Mme Georgieva, la directrice bulgare donc du Fonds monétaire international, a indiqué, me semble venir de ce que, comme on disait autrefois, elle est mal partie. Il y avait un livre en 1960 qui le disait. Et en effet, au lieu que l'Afrique, disons, s'occupe d'un développement intérieur adapté à sa nature propre, les dirigeants, les uns et les autres, disons, formés à l'école occidentale ou à l'école russe, ont voulu, disons, appliquer des modèles extérieurs à l'économie africaine. Et donc, disons, ceci ne passe pas. Et maintenant, nous sommes en état vraiment de crise, c'est-à-dire que les défauts apparaissent, les manquements apparaissent. Et je crois que ceci vaut pour beaucoup de sociétés, bien sûr. La France est touchée par la hausse de l'essence, par exemple. Mais également, nous savons que nous allons vers une crise financière et économique considérable. Et l'Afrique, elle, au lieu de, à mon avis, c'est le reproche que l'on peut faire à l'ensemble des élites africaines, pas au peuple africain, c'est d'avoir voulu imiter des modèles extérieurs, au lieu de trouver un modèle intérieur de développement. Vous savez, je conclurai en disant qu'il y a la formule de l'imam Khomeini, ni Est ni Ouest, vous voyez. Bon, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Afrique apprenne à être elle-même, voyez-vous, et sans avoir à changer, disons, de, comment vous dire, de zone d'influence. Ceci vaut pour l'Afrique du Nord, pour le Maghreb, mais également encore plus, à mon avis, pour l'Afrique subsaharienne.
Oui, tout à fait. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour professeur Dorstiguier, et toujours heureux d'être parmi vous.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission, M. Michel. Alors, M. Pierre Dorstiguier considère cette guerre entre l'Ukraine et la Russie non pas comme un conflit, mais comme une crise économique, car cette crise, justement, a des impacts extrêmement néfastes, pas seulement pour la Russie et l'Ukraine, mais également pour l'Europe, mais particulièrement pour l'Afrique, un continent très vulnérable. Que pensez-vous?
Écoutez, pour une fois, je suis d'accord avec certains experts sérieux de l'Occident. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est qu'un prétexte. L'Express à Paris a publié un éditorial très intéressant dont je partage l'analyse ce vendredi. Il a dit que les buts de guerre de Poutine, c'était en réalité de briser l'hégémonie militaire occidentale et de détruire l'hégémonie économique occidentale. Cela par la guerre suicidaire que les Américains ont tenté et que les Européens ont poursuivi. Ce qu'on constate actuellement, c'est tout simplement, il y a par exemple le professeur Ernst à l'université de Liège qui explique que ce passé du gaz, les autres experts annoncent un choc pétrolier plus important que celui lors de la guerre du Kippour en 1972. Voilà ce qu'on retient de l'affaire. Au milieu de tout ça, l'Afrique, évidemment, elle est prise en otage. Elle est prise en otage par les Occidentaux qui n'ont pas changé de logiciel et qui ont essayé de recruter des mercenaires, c'est-à-dire de l'infanterie coloniale, comme en 1914 ou en 1943, à l'indignation de tous les chefs d'État occidentaux, dont Macky Sall, le président de l'Union africaine. C'est une erreur fondamentale. La majorité des masses africaines et 17 pays africains qui ont refusé de se prononcer sont derrière Poutine. Pourquoi? Tout simplement, il faut une fois de plus écouter aussi les Occidentaux. Moi, je crois que se faire enseigner par l'adversaire est un honneur et un devoir. Il y a un éditorial ce matin dans Jeune Afrique sur les conseillers de Poutine en Afrique. Ils expliquent dans une introduction qui est très intéressante que Poutine capitalise sur l'héritage soviétique. Moi qui suis en permanence sur les plateaux de télévision, en compagnie de camarades panafricanistes, je vois seulement que l'admiration pour Poutine, ce n'est pas seulement pour son action en Afrique depuis 2015-2016, mais c'est aussi l'héritage de celui qu'on appelait Brejnev africain dans les années 1970-1980, et aussi l'héritage de la conférence de Bakou à partir de 1922. L'Afrique, elle est frappée au corps, d'une part par la guerre gazière, la guerre américaine du gaz en Ukraine, mais qui va avoir des conséquences, puisque les Américains voudraient ruiner les autres économies gazières, les économies proche-orientales. On voit que les Émiratis et les Qataris se tournent vers le bloc de l'Est, c'est un retournement géopolitique, mais également sont visées les économies gazières du Sénégal, de l'Algérie et de la Guinée équatoriale. Deuxième domaine dans lequel l'Afrique va être victimisée, c'est le domaine des fournitures de blé. Les deux plus grands fournisseurs de blé mondiaux, à hauteur de plus de 90%, c'est la Russie et l'Ukraine. Les fournitures de blé vont donc de l'aveu même d'Emmanuel Macron, qui est d'un cynisme incroyable. À cause de la politique de l'Union européenne, les fournitures de blé en Afrique vont s'interrompre pendant un an et demi, et ça va être une crise alimentaire et une crise financière dans toute l'Afrique. L'Afrique, maintenant, est en train de le comprendre. Les masses panafricaines, en tout cas, et certains dirigeants, il n'y a pas d'alternative. La liberté de l'Afrique, elle passe avec l'Union, avec le bloc de l'Est, avec la Russie, la Chine et l'Iran, et pas du tout avec les Occidentaux. Les Occidentaux apportent la guerre, les guerres extérieures, ils apportent l'appauvrissement, ils apportent les guerres économiques. Ça doit suffire, évidemment. Et ce qui s'est passé de 1960 à 2015, ça ne peut plus durer. On n'est plus autant de Tintin au Congo ou autant de Focard et du général de Gaulle.
Absolument. Pierre d'Ortiguier, j'aimerais qu'on se concentre davantage sur l'Afrique et qui, donc, d'après donc, M. Luc Michel, on essaye d'affaiblir plus que jamais l'Afrique. Déjà avant que le conflit entre l'Ukraine et la Russie ait lieu, on avait une baisse des PIB donc, de ce continent, une baisse considérable, une inflation importante. Donc déjà, l'Afrique était en crise, malgré le fait que pendant des années, l'Afrique avait connu des progrès importants. Oui. Mais ces progrès semblent anéantis depuis qu'on a eu cette crise sanitaire. Mais cette fois, cette crise, même si l'Afrique, comme le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger, se tourne vers le bloc de l'Est, la Russie en particulier, mais les impacts sont là. Donc l'augmentation des denrées alimentaires ou l'augmentation des prix du carburant pour un pays et pour un continent déjà très vulnérable aura des impacts néfastes, n'est-ce pas?
Oui, en effet. Et ceci, donc je me permets d'y insister, modestement, mais d'y insister, que ceci vient de ce que les Africains, quels que soient les régimes, mais les Africains, je veux dire, de façon anthropologique, enfin de façon, disons, à prendre les choses comme elles sont, disons, non pas d'après les idéologies, n'ont pas cherché, j'entends leurs élites, à trouver un modèle de développement qui soit adapté à l'Afrique. Ça, c'est une chose qui est, que nous sentions, nous autres, dans ma génération, lorsque nous étions envoyés en coopération. Je n'ai pas été envoyé en coopération. Je n'ai pas voulu avoir la coopération en Afrique noire parce qu'un de mes amis était revenu avec le paludisme. Alors j'ai pris la coopération en Tunisie. Et je m'apercevais que, évidemment, le regard des élites était toujours vers les anciennes puissances, soit coloniales ou non coloniales, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. Mais on ne cherchait pas à, disons, développer une sorte de modèle proprement africain, c'est-à-dire proprement local, si vous voulez. Je sais bien qu'il faut des échanges, mais il faut que l'industrie, la technique s'adapte à la mentalité, à la capacité, et même trouver, surtout du point de vue alimentaire, il est quand même effrayant de penser que l'Afrique souffre de problèmes alimentaires. C'est une chose qui vient de ce que, à mon avis, les élites se sont coupées du peuple. Ce n'est pas qu'elles soient mauvaises, mais elles ont été attirées, et j'en veux une preuve, un symptôme. Monsieur, c'est l'immigration. Je vois chez moi, par exemple, en France, beaucoup de gens de la moyenne bourgeoisie africaine s'installent. Bien. Et vraiment, je dirais que ce que je peux reprocher, c'est, je ne veux pas dire reproche intellectuel ou politique, mais c'est un reproche de, c'est un manque de sensibilité. Voyez-vous, quand on est, quand on vit en dehors de son peuple, quand on ne songe qu'à ses intérêts, évidemment, comment vous dire, l'arbre devient sec, l'arbre n'a plus ses racines, voyez-vous. Et c'est ce qui arrive malheureusement, et je crois que nous devons nous attendre d'ailleurs à une grande émigration africaine vers l'Europe. Oui, et ce n'est pas Ce n'est pas que je le reproche, que je le déplore, mais disons que c'est quelque chose qui est au détriment du développement africain, voyez-vous, surtout si la classe moyenne, qui est en formation, la classe moyenne, ce que Marx appelle la petite bourgeoisie, avec souvent un peu de mépris, elle est nécessaire à un pays, voyez-vous. Et c'est celle-là qui doit fixer la stabilité du pays. Je crois que les États, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, ont trop tourné le regard vers l'extérieur, sans un développement interne, voyez-vous. Ce qu'a fait, je me permets de faire la conclusion ainsi, regardez par exemple l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne est prête, qui a investi énormément en Russie, voyez-vous, elle est prête à une deuxième solution, celle du gaz de schiste. Mais elle tient les deux solutions, voyez, parce qu'elle songe, on y parle beaucoup de l'Allemagne, elle songe, disons, elle vit dans l'intériorité, elle vit sur elle-même, le plus possible. Je crois que c'est un exemple dans la pensée philosophique, mais un exemple également dans la conduite. Et je crois que cette tant l'Union européenne aujourd'hui, qui se partage, que ceux qui sont pour les Américains, ceux qui sont dans l'opinion française pour les Russes, ne voient pas qu'un développement est d'abord un effort personnel et sur soi, un effort d'intériorité. Comment vous dire, la santé n'est pas quelque chose qui vient par imitation du voisin, c'est par la pratique personnelle que vous avez. C'est cela un peu, disons, le sens de la signification de la crise qui atteint par exemple l'Afrique, voyez-vous. C'est un symptôme d'une faiblesse antérieure, ce n'est pas simplement le résultat d'un accident extérieur.
Luc Michel, Monsieur Pierre d'Ortiguier pense que les responsables africains se sont détachés du peuple, au détriment du peuple justement. Est-ce que d'après vous, ce n'est pas le cas pour les pays européens également?
Écoutez, l'Afrique elle est prisonnière d'un double mécanisme, un mécanisme financier économique. On pense souvent à la France-Afrique et aux Français CFA, mais également le Commonwealth, avec l'hégémonie de la City de Londres. Par exemple, les 5 plus grandes banques du Nigeria dépendent de la City de Londres. Et depuis 2019, avec le Brexit, il y a un renouveau de l'impérialisme anglo-saxon, c'est-à-dire que Washington et Londres agissent de façon économique en concert en Afrique. Le second mécanisme, il est culturel. C'est expliqué par Frantz Fanon. Je connais bien la pensée de Frantz Fanon parce que j'ai été ami en Libye avec son secrétaire Marcel Manville, le regretté Marcel Manville, le fondateur du BRAP. Fanon a écrit un livre fondamental, c'est peau noire, masque blanc. Il explique que le colonisé est colonisé dans sa tête. Ce qu'il a écrit pour les Africains, c'est également valable pour les élites atlantistes européennes. Moi, je me sers de Frantz Fanon pour expliquer la suggestion des Atlantistes à l'Empire américain en Europe. Tous ces gens sont américains dans leur tête, tous ces gens africains sont occidentaux dans leur tête. Il faut commencer par décoloniser l'homme africain et l'homme européen dans sa tête avant de décoloniser économiquement et militairement. Mais il y a un renouveau en Afrique. Les jeunes africains, les masses africaines n'ayant pas d'africanisme, n'ont plus cette suggestion. Nous ne sommes plus en 1960. Et il y a aujourd'hui des chefs d'État, moi je les fréquente, le regretté Kourounidze au Burundi, Ndayishimiye au Burundi, le regretté Maréchal Idriss Déby, Obiang Nemamba Sonko, le premier d'entre eux, en Guinée équatoriale, Touadéra ou encore Assimi Goïta. Eux, ils appartiennent à une autre génération. Ils ne sont plus colonisés dans leur tête. C'est pour ça qu'ils sont des ennemis jurés de la France qui veut les détruire. C'est ça que les Français n'ont pas compris. Ils croient encore qu'ils sont en 2010 ou en 1960. Quand je vois qu'ils sont venus recruter en Afrique des mercenaires africains pour faire la guerre en Ukraine, ils ont commis une faute psychologique absolue qui est en train de les couler définitivement psychologiquement en Afrique.
Monsieur Luc Michel, est-ce qu'on peut croire que vous êtes optimiste? Car cette mobilisation d'indépendance a déjà commencé, au Mali en particulier. Donc, est-ce qu'on peut être optimiste à l'égard de l'avenir de l'Afrique?
Je ne suis pas optimiste seulement en Afrique. Vous savez, je fêterai l'année prochaine mes 50 ans de vie militante. J'ai connu beaucoup de défaites et beaucoup d'échecs. J'ai vu mourir les pays que j'aimais, qui étaient les miens. L'URSS, la RDA, la Yougoslavie, la Jamaïque libyenne. J'ai combattu pour eux en vain, parce que le rapport de force était très supérieur. Mais maintenant, avec Poutine, avec le renouveau de la Russie, avec ce que je vois en Ukraine, avec ce que je vois en Afrique, je crois de nouveau que la victoire est possible et j'espère encore les voir à la fin de ma vie. Oui, je suis optimiste et je le suis particulièrement en Afrique parce que là-bas, nous avons fait un immense effort. Vous connaissez la théorie d'Antonio Gramsci, le leader communiste italien. Il dit qu'avant de prendre le pouvoir politique, on prend le pouvoir culturel. C'est vrai aussi en géopolitique. Nous avons travaillé pendant des années après la chute de la Jamaïque en Afrique pour préparer l'arrivée des Russes, pour préparer les masses panafricaines à se séparer du monde occidental. Et aujourd'hui, nous avons le succès. Tout simplement, les jeunes Africains nous suivent. Une chaîne comme Afrique Média, 220 millions de téléspectateurs. Le Zoom Afrique de Presse TV est suivi par toutes les élites africaines. C'est une révolution culturelle. En Afrique, la bataille médiatique, nous la menons avec succès contre les Occidentaux. Il y a des rapports du Pentagone qui me présentent comme l'un des 5 influenceurs en Afrique de la politique russe. Et une étude de France Télévisions qui dit que je suis parmi les 5 top influenceurs de la politique africaine en France et en Afrique centrale. Cela me rend optimiste. Oui, la victoire est possible. Elle est possible aussi grâce à un homme. Il faut lui rendre hommage. Il s'appelle Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise sur les plateaux de télévision de LCI, par exemple, des débats. Faut-il assassiner Poutine? Ou des journalistes et des généraux français expliquent que le mieux, c'est de lui mettre une balle dans la tête au détour d'un couloir du Kremlin. C'est le degré d'abjection dans lequel sont descendus les Occidentaux en pleine panique sur tous les Français.
Pierre Dortiguier, à votre tour, est-ce que vous êtes également d'accord avec la position de M. Luc Michel? Est-ce que vous partagez son optimisme à cet égard? Est-ce que la victoire est possible pour les Africains, malgré donc les impacts économiques de la guerre?
Je fais abstraction, ce n'est pas du tout une critique, mais disons, je mets de côté ce qu'il dit sur l'Union soviétique, que j'ai traversé, la Chine que j'ai connue au début de la révolution culturelle. Bien, j'étais moi-même, vous savez, en politique, après le départ du général de Gaulle, j'étais un de ses archivistes, pour il m'en avait remercié personnellement. Donc j'avais une vision qui était, je répète encore, ni Est ni Ouest, mais une vision indépendante. Ceci dit, je suis optimiste quand, sur un seul point, c'est le fait que les masses africaines, sans aucune nuance péjorative, sont plus mûrs qu'autrefois. Il y a en effet une génération qui n'est plus celle, disons, des gens soumis des années 60. Bien, je me rappelle très bien aussi, il a cité M. Michel Frantz Fanon, qui a marqué notre génération, c'est vrai, mais je suis très pessimiste quant à l'affrontement, disons, de deux systèmes, système américain et système, que je dirais russe, mais pour moi, qui est la suite du système soviétique. Ce qui n'est pas une critique, c'est un fait. Et je dirais, comme ayant été formé à la philosophie, je dis ça sans aucune orgueil, vous savez, mais je reprendrai la formule du philosophe allemand Martin Heidegger, qui dit « Américanisme et soviétisme sont des formes, disons, de pensée superficielle. » Et je crois que c'est cette pensée superficielle qui conduit, elle n'est pas fausse, il n'y a pas que des faussetés, mais il y a être superficiel, c'est ne pas voir les racines populaires, les racines sensibles, ne pas voir l'entier de l'être humain, c'est-à-dire ne se fier qu'à l'homme économique, si vous voulez. Voyez, c'est-à-dire, et c'est ça qui me rend pessimiste, justement, de ce point de vue, non pas sur l'Afrique, non du tout, mais quant à l'affrontement, à mon avis, fatal, des deux systèmes qui, peut-être aux yeux de Dieu, n'en font qu'un seul.
Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
C'est à ça que ressemble la fièvre de guerre des libéraux. Nous savons tous que la couverture médiatique de l'Ukraine par les médias occidentaux a été très chargée, jouant sur les sentiments de sympathie de l'Occident pour les victimes, opprimées et orientant les sentiments vers une indignation morale qui insiste, voire même exige, une rétribution et une punition pour les auteurs présumés. David Brooks, dans le New York Times, élève ce sentiment de culpabilité à des niveaux supérieurs. Le créneau du libéralisme connaît un second souffle et nous a rappelé non seulement ce que c'est que de croire à la démocratie, à l'ordre libéral et à l'honneur national, mais aussi d'agir courageusement au nom de ces choses. Ils nous ont rappelé comment les revers ont pu nous faire douter et rester passifs face à l'évangile de la démocratie. Mais en dépit de tous nos échecs, l'évangile est toujours radieusement vrai. L'Ukraine peut être beaucoup de choses, mais un évangile de la démocratie ? Toute crise grave, bien sûr, est aussi une occasion de mythopoeia, surtout en période d'anomie, lorsqu'un peu moins de la moitié d'une société découragée croit que son pays ne s'investit pas en elle et que les systèmes économiques et politiques et les gens qui les dirigent sont empilés contre elle, quoi que vous fassiez. L'établishment anglo-américain s'est montré habile à comprendre qu'en raison de cette anomie et de l'érosion de notre canopée sacrée, un noble mensonge peut être utilisé pour donner un dernier souffle à un ordre fondé sur des règles. Son pouvoir inhérent peut être exploité pour générer l'indignation comme casus belli pour le libéralisme mondial. Après tout, quelle meilleure force unificatrice que le grand projet américain de la guerre pour stimuler le désir d'une réappropriation de la signification nationale. L'Occident a porté la domination de l'espace d'information à de nouveaux sommets. Il a consolidé les médias, resserré son emprise sur l'information, marginalisé les quelques journalistes d'investigation qui subsistent et réduit le scepticisme à néant en la qualifiant d'apaisement ou de poutinisme. La liberté de penser en ligne n'est pas autorisée. Les perspectives de diffusion sélective sont supprimées ou autorisées. Par exemple, les sympathies pro-néo-nazis et la violence à connotation politique contre les Russes et la Russie et un monopole également sur la vérité est établi. Ainsi, lorsqu'elle est prise en flagrant délit de mensonge, toute intrusion errante est tout simplement disparue de manière algorithmique. Ne fait aucun doute que l'Occident a raffiné ce mode de combat au plus haut point, mais son succès même diffuse également ses propres agents pathogènes dans les capillaires occidentaux. Une fois mis en branle, il possède tout le pouvoir d'accoutumance des jeux en ligne. Écrivez le script d'un nouveau scénario, dirigez sa production, puis mettez-le en scène sur vidéo. Beaucoup ne croiront peut-être pas le résultat, mais ils ne pourront rien faire d'autre que de le regarder en silence et totalement frustré. La partie est terminée, vous avez gagné. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce jeu génère sa propre dynamique. Il y en a toujours un autre à portée de main pour remplacer la raillerie du dernier joueur à la gare de Poutine pour saluer le nouvel acte de bravoure désintéressé de la victime pour spéculer sur d'autres actes criminels prévus contre elle. Et ainsi, la demande de châtiment et de punition est investie d'un élan imparable. La logique de sa structure fait qu'il est presque impossible pour tout dirigeant politique de s'opposer à la marée montante. C'est là où nous en sommes. Trois réalités qui sont tellement coupées les unes des autres qu'elles ne se touchent en aucun point. Il y a la réalité des opérations psychologiques qui n'a presque aucune ressemblance avec la réalité de la situation militaire sur le terrain. En fait, elles se manifestent comme des interventions polaires l'une de l'autre, une résistance héroïque contre une armée russe défaillante, démoralisée et handicapée. Alors que la réalité est que Poutine n'est pas fou et que l'invasion russe n'est certainement pas un échec. Ensuite, il y a les réalités contradictoires d'une Europe et des États-Unis associées dans une entreprise économique et morale de puissance sociale et de morale de combat. Bien qu'au prix d'une certaine abnégation, autoflagellation pour eux-mêmes, pour punir la Russie. Et l'autre réalité est qu'un monde en guerre, qu'elle soit cinétique ou financière, sera un désastre pour l'Europe et même les États-Unis. La guerre est inflationniste, la guerre est contractionniste et inflationniste aussi. Tout, le pétrole, le gaz, les métaux, etc., augmente verticalement et toute la chaîne de production alimentaire est soumise à des pressions de toutes parts. Mais cette situation est clairement moins désastreuse pour un super fournisseur de produits alimentaires et de matières premières comme la Russie. La troisième série de réalités distinctes est d'une part la focalisation exclusive et sans contexte sur les événements en Ukraine qui effacent ce moment d'inflexion politique et économique mondiale et d'autre part l'éléphant dans la pièce qui est le méga-projet Russie-Chine pour forcer un retrait et un confinement de l'ensemble de l'ordre hégémonique fondé sur des règles. Il existe d'autres réalités distinctes, comme celle de la Russie isolée et évincée, alors qu'une grande partie de la planète ne soutient pas les sanctions punitives des États-Unis et de l'Europe, mais peu importe. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui se passe lorsque ces réalités se heurtent, mais ce qui se passe lorsque l'une ou l'autre des réalités, déjà chargée d'une charge hyper-émotive et moralisatrice, est forcée de prendre pleinement conscience qu'elle avait tort. C'est le pathogène inhérent au fait de pousser à l'extrême le champ de bataille de la domination de l'information. Il faut se poser donc la question suivante, dans quel sens les émotions se transformeront-elles si tout le battage médiatique tombe à plat et que le méchant gagne la partie ? Les gens se retourneront-ils contre leurs dirigeants actuels ou choisiront-ils de redoubler d'efforts en exigeant davantage de guerre alors que leurs instincts se rebellent contre tout constat d'échec infligé à des convictions quasi-religieuses bien établies ? L'issue de ce dilemme psychique peut déterminer si nous nous dirigeons vers une escalade et une guerre étendue ou non. Des responsables des services de renseignement américains ont affirmé mardi que Poutine serait désespéré de mettre fin au conflit en Ukraine, certains suggérant donc en privé qu'il pourrait même faire exploser une arme nucléaire tactique dans une ville ukrainienne pour y parvenir. Alimenté par ces déceptions, Poutine pourrait avoir recours à une petite arme nucléaire. Vous savez, la doctrine russe veut que l'on escalade pour désescalader et je pense donc que le risque augmenterait conformément à la doctrine, a déclaré le directeur de la CIA et ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou. Donc, nous y voilà à la prochaine étape de l'escalade. Elle est maintenant attribuée à Poutine, mais le fait est qu'elle a été rendue publique par la CIA. Est-ce une préparation du terrain? Il est peu probable qu'une escalade à ce niveau soit envisagée tant que l'option d'enfoncer la Russie dans un bourbier ukrainien reste fermement envisagée. Si le récit des opérations psychologiques, dont dépendent tant de choses, ne résiste pas à la réalité du terrain, l'opinion publique exigera des réponses. Pourquoi ont-ils été conduits sur le sentier des primes verts? Le revers de la canopée sacrée sera immense. Qu'il s'agisse de BLM, du coronavirus ou maintenant de l'Ukraine, chaque question est abordée en termes apocalyptiques et avec une peur gargantuesque. Mais pour ce qui est de toutes ces frayeurs, les déplorables sont finis.